Je vais vous parler de la liberté perspective du royaume. Liberté, la liberté, c'est une perspective du royaume de Dieu. Je suis en plein déménagement avec mon épouse et les enfants, nous sommes en plein déménagement. Alors il y a des cartons un petit peu partout, nous allons simplement à 10 minutes d'où nous sommes. Et vous imaginez le tableau, tous les meubles sont à moitié démontés, il y a des cartons, des choses qui traînent un petit peu partout. Et il nous faut faire visiter l'appartement, la gérance nous demande pour que des personnes puissent venir ensuite. Et je dois dire que j'ai un tout petit peu honte de leur montrer l'état dans lequel l'appartement se trouve. On a de la peine à voir quelle est la superficie totale parce qu'il y a tellement de cartons qui sont là. Est-ce que ça ne nous arrive pas parfois d'avoir même chez nous des pièces quand on a des invités puis qu'on fait visiter des pièces qu'on n'ouvre pas ? Simplement parce qu'on a peur qu'il y a le fer à repasser qui nous tombe sur le coin de la figure. Et peut-être que dans nos vies aussi, il y a des coins et des recoins que nous ne voulons pas montrer. Des portes que nous voulons laisser fermer, mais Jésus désire visiter toutes les pièces de notre être intérieur. Parce que Jésus, et c'est son ministère, nous appelle à la liberté. Et c'est ce dont je vais vous parler ce matin. Nous sommes en combat parce que là, nous ne vivons pas dans un environnement aseptisé, n'est-ce pas ? Nous avons des combats, mais en Jésus, nous avons la victoire. Et Jésus remporte le combat dans nos vies. Et j'aborderai deux axes de la liberté perspective du royaume. Deux points, libérer pour la liberté. Et la deuxième chose, c'est le cadre de la liberté. Alors nous allons prendre la parole de Dieu dans Galates 5, le verset 1, pour commencer, et ensuite nous prendrons les versets 13 à 18. Galates, le chapitre 5, le verset 1, nous lisons. Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau sous le joug de l'esclavage. 13 à 18. Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes. C'est aussi valable pour les femmes. Livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole, « Aime ton prochain comme toi-même. » Mais si vous vous blessez les uns les autres, et si vous vous entre-déchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. Je vous dis donc ceci, marchez par le Saint-Esprit, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui sont opposés de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Amen. La liberté perspective du royaume. Libérer pour la liberté. Dans le contexte des Galates, c'est important de bien brosser le tableau dans lequel Paul est en train de parler ce contexte. Paul est en train de réfuter les thèses des judaïsants qui influençaient les Galates en leur faisant croire que les croyants non-juifs devaient se soumettre à la loi juive pour être sauvés. L'apôtre Paul démontre que les non-juifs n'ont pas besoin de se soumettre à la loi de Moïse et au rite, ici particulièrement la circoncision, pour devenir chrétien. L'Esprit est mentionné 7 fois dans cette section qui commence au début du chapitre 5 par la liberté. La liberté chrétienne dépend du Saint-Esprit. C'est Jésus qui nous libère, mais l'œuvre constante de l'Esprit Saint vient nous sanctifier, nous rendre saints, et nous diriger. C'est pour la liberté que Jésus nous a libérés, que Jésus nous a affranchis par son œuvre à la croix. Et ce premier verset est important. Il est là comme le centre, le fondement, vous savez, la clé de voûte. C'est pour la liberté que Jésus t'a libéré. Et il nous a parlé de cette nature humaine qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit qui a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Et cette nature humaine est aussi traduite par la chair. En d'autres mots, c'est l'être humain livré à lui-même, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, celui qui n'a pas été régénéré. Mais c'est aussi toutes les fois où je ne me soumets pas à l'esprit de vie et de vérité. L'homme, livré à lui-même, l'individu dans sa condition naturelle, est incapable de plaire à Dieu. Et cette nature humaine a plusieurs caractéristiques. Elle se corrompt. Elle décide ce qui est bien de ce qui est mal. Elle s'oppose à l'esprit. Elle est révoltée contre Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu qui est l'amour, j'en parlerai dans le deuxième point. Elle mène à la mort et elle n'hérite pas du royaume de Dieu. Il y a donc cette nécessité d'être né de l'esprit, de ce qui vient d'en haut, et de tendre à cela, de se soumettre à l'esprit du Seigneur. Je vous raconte une petite histoire, une histoire vraie. Lorsque j'étais enfant, je suis né à La Chaux-de-Fonds, mais j'ai grandi dans la région de Lausanne, j'étais plus précisément à Crissier. Et puis nous avions quand mes parents sont venus à Noël, le chien était petit. Ils sont venus avec un petit chien. Et puis quelques mois après, mes parents se sont rendus compte que petit chien deviendra très très grand. Il fallait voir déjà la taille de ses pattes, elles étaient énormes. Et ce chien avait une particularité. C'est que lorsque nous étions à table et que nous mangions, il salivait énormément. Alors vous savez, il faisait des immenses bulles comme ça de salive. Il y en a qui diront qu'on a le chien qui nous ressemble, mais je suis invité chez personne à midi, donc vous ne verrez pas. Et ce chien salivait énormément dès qu'il pensait. Il pensait tout le temps à manger, du reste. Et puis il avait une autre particularité, c'est qu'il avait énormément de force. Donc quand vous le baladiez, il fallait avoir une pointe de fer. Moi, en tant que petit garçon de 10 ans, c'était vraiment très 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 difficile de le tenir. Et puis il allait un petit peu à droite, à gauche, et il fallait le tenir, on ne savait pas tellement comment. Et nous étions un dimanche au bord du lac, à Lausanne, nous nous baladions, et j'avais le chien comme ça entre... que je tenais dans mes mains avec la laisse. Et puis le chien tout d'un coup a commencé à être un petit peu fou. Et puis, c'était tellement fort, il tirait tellement que j'ai dû lâcher la laisse. Et le chien est parti, ventre à terre, derrière une espèce de monticule. Et puis, j'étais un tout petit peu paniqué. Je regardais mes parents, j'ai dit, il faut absolument qu'on aille rechercher le chien, je ne sais pas où il est. Et puis, plus on allait, plus les gens avaient une mine un petit peu bizarre en rigolant gentiment. Et puis, nous sommes arrivés là où notre chien était. Et le spectacle était un désastre. Il y avait un immense tas de pain pour les cygnes. Et nous avions ce chien qui était là et qui s'en mettait partout. Il y avait de la bave partout et il mangeait partout. Un combat avec notre chair, entre la chair et l'esprit. Un véritable combat. Parfois nous sommes tirés, attirés. Et il y a ce combat qui est là, il y a une tension claire entre les œuvres de la chair, de la nature humaine, et ceux de l'esprit. Paul a dressé dans ce même chapitre une liste épouvantable des œuvres de la nature humaine. Il nous a parlé, je vous en donne quelques-unes, la sexualité. C'est donc tout péché sexuel hors mariage et de comportement sexuel illicite. Il parle du domaine de la religion, c'est l'adoration des idoles et la magie. L'amour de l'argent, la soif de posséder qui est une idole. Il parle du domaine de la vie en société, la désintégration des relations personnelles. Il y a aussi le domaine de la boisson et des excès de table, désignant une pratique habituelle. Ces catégories ne sont bien entendu pas exhaustives, du fait que l'apôtre termine la liste avec « et autre chose ». De ce genre. L'homme livré à lui-même est profondément égocentrique. Tout est centré sur lui-même pour lui apporter satisfaction. Moi, moi, moi et encore moi. Souvent, lorsque nous parlons de péché, nous pensons tout de suite à ce qui est visible. Il est facile de mettre le doigt sur le comportement de la personne qui fume devant ou derrière l'église, qui porte une odeur de cigarette. Il est aisé que de juger et de condamner des pratiques visibles qui, semble-t-il, ne nous concernent heureusement pas. Or, le péché n'est pas que visible. Les critiques, les calomnies, les mauvaises pensées, la convoitise, la comparaison, l'orgueil, l'envie et la jalousie, la pornographie regardée en douce alors que toute la famille d'aura point fermé, les achats compulsifs nous endettant à tout va, un comportement légaliste religieux qui s'auto-justifie et qui croit qu'il est sauvé à force de règles et de bonnes œuvres, fait partie des œuvres de la nature propre. Si je suis animé par ma nature propre, si je me livre à moi-même, je ne peux pas plaire à Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pour la liberté que Jésus nous a libérés. Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Et c'est une bonne nouvelle, Jean 8, 36. Je désire être libre, être animé de l'Esprit, mais ce n'est pas en accomplissant des rites ou en faisant des efforts que je le serai, c'est en le laissant agir pleinement et en acceptant que j'ai besoin de la grâce. Nous avons tellement la tête dure parfois, où nous ne voulons pas reconnaître. Mais vous savez, je dis souvent quelque chose. Lorsque Dieu montre quelque chose dans notre vie, il ne vient jamais avec un doigt accusateur en disant « Ah 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 ah, t'as vu ce que tu as fait ?» Ça, c'est l'œuvre du diable. Mais Jésus, lorsqu'il révèle des choses dans notre vie qui ne sont pas sa gloire, c'est toujours pour nous amener à la vie. Alors bien entendu que ça fait un petit peu mal. Je vous raconte encore une histoire, ça va? Vous aimez bien les histoires. Lorsque je suis revenu au Seigneur, j'étais jeune adulte, juste après l'adolescence où j'ai eu une période un petit peu compliquée, on dira. Je sentais bien qu'il fallait que je fasse du nettoyage dans ma vie. Et j'allais voir le pasteur et je lui disais, pour moi t'es pas mon pasteur. Il me dit, ah bon, mais comment ça? Je dis, pour moi t'es mon dentiste. Parce que c'est comme quand je viens chez le dentiste. J'ai peur de ce qui va ressortir, mais je sais que je vais être soulagé après. Alors bon, n'appelez pas votre pasteur votre dentiste, parce que voilà, mais simplement pour comprendre. Dieu désire nous amener à la liberté, à la libération. Alors reconnaissons nos emprisonnements, nos mauvais penchants. N'ayons pas peur de le faire, car Jésus désire accomplir sa puissance de libération dans nos faiblesses. Son œuvre à la croix est essentielle, centrale. Il a vaincu la mort et je suis invité à crucifier ma nature propre avec ma passion et mes désirs. Alors renonçons à notre vieille nature pour un renouvellement. Jésus est mort, mais il est ressuscité et c'est ce même esprit, celui de la résurrection, qui vit en nous. Vous savez, parfois, lorsque nous sommes dans des comportements que nous connaissons personnellement, parce qu'ils nous concernent, nous ne savons des fois pas par quel bout les prendre. J'ai le témoignage de ce frère qui avait un problème de colère. Et puis, la colère ne se voyait pas tellement à l'extérieur, mais se voyait plutôt chez lui, dans sa propre famille. Et ce frère avait ce problème de colère et il ne savait plus du tout comment faire pour s'en débarrasser. Il aimait profondément le Seigneur. Il lisait sa Bible, il avait un culte personnel, il faisait tout bien, mais il avait ce problème de colère. Et il disait, mais j'en peux plus, je ne sais plus comment faire. Et un soir, il était chez lui dans son lit. Et puis il a commencé à prier, puis il a dit, Seigneur, au secours. Je lâche les armes, j'abandonne, j'en peux plus. Il faut que tu interviennes dans ma vie. Il faut absolument que tu me libères. Et je vous promets, ce frère s'est endormi. Il a fait un rêve où le Seigneur lui a montré un épisode qu'il a vécu dans son enfance. Et lorsque ce frère s'est réveillé, il avait ce rêve à l'esprit. Et il a simplement dit à Dieu, Seigneur, pardon pour cet épisode-là. Et il a été libéré. Instantanément. Et ça a commencé à se voir dans sa famille. Il n'a rien dit du tout à son épouse, à ses enfants de ce qui s'était passé. Mais le fruit a été manifesté. Quelque chose de fort s'était passé. Si le Fils Jésus te libère, tu seras réellement libre. Alléluia. Soyons ouverts au surnaturel de Dieu dans notre naturel. En parlant des désirs de la chair, je vais terminer ce point. Augustin dit ceci, ne pas les éprouver, ce n'est plus le combat, c'est la récompense du combat. Et nous y parviendrons quand nous aurons remporté la victoire en persévérant dans la grâce jusqu'à la fin. La liberté, perspective du royaume. Libéré pour la liberté. Et le deuxième point que j'aimerais que nous regardions encore ensemble, le cadre de la liberté. Le joug, il est parlé d'un joug, il est parlé de se laisser réduire à nouveau en esclavage. Et le joug, c'est une pièce de bois rigide qu'on met sur le bétail. Vous savez, Jésus a parlé de son joug qui est doux et léger. Et dans notre société, la notion d'être libre implique qu'on laisse à l'individu de pouvoir faire et dire tout ce qu'il veut. Du reste, le terme liberté est très galvaudé. C'est exactement le comportement qu'on retrouve à la Genèse, dans le péché originel. Déterminer et décider soi-même ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. C'est en fait prendre la place de Dieu. Et en agissant de cette manière, c'est s'opposer à Dieu et ainsi être esclave de mes propres désirs. Nous avons souvent une mauvaise définition et compréhension du cadre, car nous pensons qu'il ne nous amène pas à la liberté et qu'il est plus là pour nous contraindre. Mais cette question, le cadre est-il vraiment contraignant? Jésus est venu établir le cadre, chers amis, frères et sœurs. Accomplir la loi par une autre notion, l'amour. Jésus est l'amour de Dieu et le cadre qu'il nous propose est régi par l'amour et la grâce. Ne te remets pas sous le joug de l'esclavage, nous amène à nous mettre sous le cadre de l'amour. C'est un cadre qui sécurise. Plus je mettrai Jésus au centre de mes préoccupations, de mes priorités et de ma vie, et plus je grandirai dans la liberté. C'est à la liberté que vous avez été appelés seulement. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Alors l'apôtre Paul souligne deux réalités, celle de nous laisser conduire par l'Esprit et celle de marcher, de vivre par l'Esprit. Et les chrétiens sont ceux qui laissent l'Esprit diriger leur vie. En grec, le verbe diriger s'applique à un fermier qui dirige du bétail, à un berger qui conduit un troupeau, à des soldats qui escortent un prisonnier au tribunal ou en prison et au vent qui pousse un bateau. Et le Saint-Esprit agit comme un conducteur qui prend l'initiative. Il oppose ses désirs à ceux de notre nature pécheresse. Il crée en nous des désirs saints. L'Esprit agit en nous pour nous conduire à l'obéissance. Et je vais pouvoir rester, m'aligner dans cette liberté parce que je me soumets et que je reste dépendant à Dieu. L'apôtre Paul parle de problèmes dans l'Église. Et il en parle en plein milieu d'un texte sur la liberté. Pourquoi ? Il précise que ceux qui se dévorent les uns les autres finiront par se détruire. Le cadre opposé à l'amour est le jugement. Le jugement emprisonne les autres, les met sous un joug d'esclavage. Mes regards, mes paroles, mes actes, s'ils sont inspirés par ma mauvaise nature, vont emprisonner ceux qui m'entourent. Le jugement est tellement destructeur, frères et sœurs. Et le jugement n'amène pas à la liberté. Le jugement n'amène pas à la vie. Par contre, l'amour nous amène à la construction. Nous sommes souvent en tension avec cette notion d'amour. Certains diront, mais je ne suis pas d'accord avec la manière de vivre de la personne. Mais j'aimerais dire ceci, l'amour, ce n'est pas le fait d'être d'accord. C'est reconnaître l'autre dans qui il est, une créature du Seigneur. Dieu m'aime d'une manière inconditionnelle. Mais est-ce que Dieu est d'accord avec tout ce que je fais? L'amour voit l'autre personne avec les perspectives de Dieu. Ne mettons pas des joues de culpabilité et de rivalité sur les autres. Comprenons bien qu'un cadre régi par l'amour de Dieu et du prochain est un cadre qui sécurise, qui protège, qui établit, qui respecte, qui reconnaît chacun, chacune pour qui il et elle est, qui libère dans les dons et les capacités propres à chaque personne. Et si vous enlevez le jugement de vos yeux et de votre bouche et que vous les remplissez par l'amour, vous allez être témoin de choses magnifiques pour la gloire de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un vient et puis dit, mais je sens que je peux tout dire. C'est pour la liberté que Jésus vous a libéré. Je vous raconte encore une petite histoire, d'accord? J'étais interpellé cette semaine, je lisais le journal et je voyais qu'en Asie, au Vietnam, il y a un gros problème avec les ours. Alors vous allez dire, mais avant ils nous parlent de chiens, maintenant ils nous parlent d'ours. Peut-être je me sens un petit peu concerné par les ours parce que mon fils m'appelle Papa Ours. Il me dit, toi t'es un véritable ours, je ne sais pas comment il faut que je le prenne. Et puis ces ours, ils ont un problème avec les ours parce qu'ils sont énormément en captivité, parce qu'ils les utilisent à des fins, je dirais, alimentaires et épouvantables. Et puis il nous était parlé de deux ours qu'ils étaient en train de libérer, qui étaient dans une ferme en Asie. Ils étaient en train de libérer ces ours et puis ils voulaient les mettre justement dans un environnement de liberté. Et ces ours ont de la peine à sortir parce qu'ils ont tellement été sous un poids d'esclavage, ils ont de la peine à sortir de la cage, ils ont de la peine à aller de l'avant. Et parfois il en est de même pour nous et pour ceux qui nous entourent. Soyons frères et sœurs des facilitateurs. Encourageons-nous les uns les autres, déposons les jugements, les critiques, ça n'apporte pas du bon, c'est la destruction. J'ai entendu à plusieurs reprises des chrétiens qui s'opposaient à un cadre dans l'église. Et j'entendais des personnes me dire, mais pasteur, un chrétien est libre, il n'a pas besoin de cadre. Alors j'ai répondu une fois à une de ces personnes, j'ai dit, mais prends tes enfants, enlève tout cadre, et nous en parlons dans 2 jours. L'Église a un cadre qui a été posé par Jésus, lui qui bâtit son Église, qui appelle et établit des personnes d'autorité. Alors comprenons bien que Jésus ne fait pas de favoritisme, mais que nous avons tous des rôles et des responsabilités différentes qui nous incombent et qui sont là pour maintenir une cohésion et une complémentarité. Le cadre de l'Esprit, c'est l'unité. Et nous sommes enjoints à être serviteurs les uns des autres et à nous soumettre les uns aux autres. Nous sommes libres, mais cette liberté a pour cadre l'amour et dans le respect de l'autorité de Jésus et de ceux qu'il a mis en place. Vivre libre est possible. C'est pour la liberté que Jésus m'a libéré. Je ne veux plus me cacher dans mes mauvais fonctionnements, mais je veux les laisser être envahis par la puissance du Saint-Esprit, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Je ne veux pas me laisser remettre sous le joug de l'esclavage, mais accepter le cadre sécurisant d'amour et de grâce. Je désire être animé par l'amour de Dieu, celui que je manifeste envers mes frères et sœurs, dans un but de valorisation des autres et de construction les uns avec les autres dans une soumission mutuelle. Et nous vivrons ensemble la vraie liberté que Jésus a acquise pour chacun de ses enfants. Amen.